ce vote important au Parlement européen est donc approuvé.
Approvato. Proposals
and amendments. Les eurodéputés se retrouvent pour des travaux en commission.
Protection des consommateurs, environnement.
Parlement. Parlement.
Bonjour Nathalie Griesbeck.
Bonjour.
Vous êtes députée européenne, membre de l'ALDE, les libéraux et démocrates au Parlement européen. Et vous êtes membre...
Qui correspond au MoDem hein, en France. Parce
absolument.
Parce que l'ALDE, ça parle pas beaucoup... aux auditeurs.
Eh ben merci de la précision. Et vous êtes membre notamment de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Avant d'évoquer le rapport sur la présomption d'innocence dont vous êtes en charge, on s'arrête sur une des actus européennes de la semaine, le sommet international de la Valette. Pays de l'UE et d'Afrique se rencontrent pour parler migration. Nathalie Griesbeck, que doit-on attendre de ce sommet ?
J'espère des réponses et surtout des réponses concrètes parce que ce sommet, il a été sollicité, je crois, en début d'année lorsque les flux migratoires ont été de plus en plus importants.
C'était au printemps, oui.
Oui, aujourd'hui, ces flux constituent un véritable défi pour les Européens et ces rencontres avec les États africains permettent de travailler aussi cette problématique, j'ai envie de dire, dans tous les sens, à la fois la manière d'accueillir dans la dignité ceux qui relèvent du statut de demandeur d'asile, les réfugiés qui quittent les territoires ou les pays où ils sont nés pour des raisons de fuite de la violence, de la guerre, de la dictature, et donc de tant d'atrocités dont notre monde n'est pas économe. Mais aussi de discuter avec nos partenaires africains sur cette problématique, éviter que effectivement les pays d'Afrique ne se vident de leur population, de la matière grise, de tout ce que ça peut représenter d'atout pour leur pays. Et donc ces rencontres, elles sont très très importantes parce que, en outre, j'ai envie d'ajouter quelque chose dont on ne parle pas assez souvent, je trouve, depuis quelques mois. Face à cette situation dramatique de milliers, de dizaines de milliers de réfugiés, c'est que la responsabilité, elle n'est pas uniquement européenne. Cette situation, elle concerne tous les pays du monde et la solidarité, la responsabilité partagée doivent être travaillées avec tous les pays du monde parce que ce qui se passe là, ça n'est que le début d'un phénomène qui va aller en s'amplifiant. Notamment peut-être aussi très très vite avec des dizaines, on annonce même 100 millions dans les 15 ans qui viennent de réfugiés qui vont l'être en raison du dérèglement climatique.
Il y a la question climatique qui vient se greffer, voilà. Effectivement. Quand vous pensez à une réponse internationale, ce sont par exemple les monarchies du Golfe ou ce sont également...
Les monarchies du Golfe, les États-Unis aussi, les pays, tous les pays du monde qui... ont à apporter leur pierre. La situation qui est celle des migrations venant donc par l'Est et qui entre dans l'espace européen par la Grèce, par exemple, elle est souvent liée, bien sûr, aux horreurs qui se déroulent en Syrie depuis bientôt 4 ans, mais aussi, moi je suis allée sur la route des Balkans il y a un mois environ, j'ai fait tous les postes frontières où j'ai vu des milliers de gens, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants aussi, et qui sont pas tous syriens, il y a beaucoup d'Afghans, d'Irakiens, et la situation, le bourbier dans lequel se trouve cette région du monde est liée à des décisions qui ont été prises, mal prises peut-être, c'est facile pour moi et pour vous de le dire comme ça en commentant, mais quand même, par les grandes puissances, dont les États-Unis pour l'Irak, pour un certain nombre de situations de ces populations qui sont liées à des décisions qui leur sont passées au-dessus du bonnet et dont elles subissent vraiment et la violence et la désespérance. Donc cette responsabilité, je le redis, on l'entend pas assez souvent. Bien sûr, il faut qu'il y ait des initiatives diplomatiques, il faut qu'on essaie autour d'une table de s'attaquer aux causes profondes de ces problèmes et donc d'essayer de rétablir ensemble les puissances du monde la paix dans ces régions du monde qui sont en péril, mais qu'on le fasse tous ensemble pour restaurer une stabilité démocratique si possible, en tout cas une stabilité tout court pour que ces gens n'aient pas envie de partir non plus.
Sur l'ordre du jour de ce sommet de la Valette, il est indiqué, entre autres, il y a évidemment la liste est longue, mais il est indiqué par exemple poursuite des travaux pour promouvoir et organiser des voies de migration légales. On sait que de votre côté, c'est une question que vous portez aussi.
Oui, dans mon groupe parlementaire, en effet, on est, comme tout le monde, atterré par les milliers de morts en Méditerranée. Et donc, il est grand temps qu'on ait installé les hotspots en Grèce et en Italie, qui permettent d'accueillir, d'orienter, de discuter avec les réfugiés qui arrivent, de distinguer entre les réfugiés et les migrants économiques, et donc d'organiser un accueil qui soit digne et éventuellement aussi un renvoi dans leur pays d'origine de ceux qui sont en difficulté mais pas dans l'urgence, que sont les migrants économiques.
Ça fait partie aussi du programme de discussion, hein, le retour des migrants illégaux, entre guillemets.
Bien sûr, et c'est ce qu'on a, moi avec Marielle de Sarnez, je suis déjà allée il y a 4 ans à Lampedusa, tout ce qu'on met maintenant sur la table sont des éléments qu'on avait déjà dégagés il y a 4 ans, donc on a beaucoup tardé. Et tant mieux, il n'est jamais trop tard, mais si seulement on avait réagi beaucoup plus vite. Et par rapport à votre question sur les voies de migration légale, en effet, on ne peut pas continuer sans mot dire à voir tous les jours que Dieu fait des gens mourir en mer sur des embarcations amenées par des mafieux. Donc il faut à la fois s'attaquer à ces réseaux mafieux qui sont souvent en plus associés à des réseaux évidemment de traite des êtres humains qui sont qu'il faut absolument traquer avec fermeté et parfois même d'autres turpitudes, mais aussi prévoir des voies de migration légale, c'est-à-dire avec un système organisé, harmonisé entre les États pour savoir quels sont les mécanismes d'accueil et le faire de façon à ce que les gens ne meurent pas en mer.
On le rappelle, le sommet international de La Valette se déroule mercredi et jeudi. Et puis La Valette se trouve donc bien sûr à Malte. Nathalie Griesbeck, je l'ai dit au début de l'interview, vous êtes membre au Parlement européen de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Et vous êtes rapporteur d'un texte sur la présomption d'innocence, texte législatif dans le cadre d'une directive européenne. Oui. Et un accord a été trouvé entre Parlement, Commission et Conseil en trilogue après 5 réunions. Ça a été difficile.
C'est la mécanique habituelle, c'est la procédure. Et effectivement, j'ai été nommée rapporteur il y a à peu près un an exactement. Donc j'ai d'abord travaillé ce grand principe du droit pénal qui est la présomption d'innocence pour essayer d'établir pour les 28 États membres une harmonisation du droit sur ce principe fondateur de l'organisation judiciaire de tous les États qui se veulent démocratiques. Et donc, dans un premier temps, avec les rapporteurs shadow, c'est-à-dire des autres groupes parlementaires, j'ai mené les travaux. Nous avons obtenu un accord en commission des libertés.
C'était fin mars, oui.
Ah bah oui, moi je me souvenais plus du mois, parce que j'ai tellement travaillé sur ce dossier, qui est, comme vous l'avez dit, est un des rares textes normatifs en ce moment en Europe, parce qu'il y a beaucoup de rapports d'initiative qui sont des rapports d'orientation de ce que voudrait faire le Parlement européen. Il y en a très très peu qui est une force contraignante, puisque, comme vous vous en souvenez, au début donc de la nouvelle législature, on avait décidé d'alléger le travail, pas le travail, mais d'alléger la législation de façon à faire mieux et à avoir moins de textes, ce qui est une très très bonne chose.
Mais donc, certains s'en plaignent aujourd'hui, comme vous disiez, de l'allègement de travail, même si c'était plus un lapsus. Ça, c'est encore un autre sujet. En tout cas, le texte dont on parle actuellement, lui, il est contraignant. C'est un texte législatif.
Voilà. Et je l'ai voulu très bref, il fait 15 articles. Et les articles principaux donc, nous ont amenés évidemment à travailler avec la représentation des États, qui est le Conseil, d'où ces 5 réunions de trilogue où nous avons abouti il y a 15 jours, à un accord avec le Conseil, puisqu'on est en co-législation. C'est-à-dire que si les États ne veulent pas, on n'avance pas, et si nous ne voulons pas, on n'avance pas non plus. Donc il faut se mettre d'accord. C'est assez démocratique parce qu'il y a d'un côté le peuple européen dans le Parlement et puis de l'autre comme la Chambre des États qui représente les gouvernants des 28 États membres.
Et du coup, on aboutit à un compromis, hein, c'est ça qu'on comprend.
Oui, mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, car nous avons... Enfin, ce n'est pas vraiment un compromis. C'est un texte sur lequel on a réussi à trouver un accord. Et moi, je n'ai pas tellement fait de compromission. J'ai lâché du lest sur certaines choses.
Lesquelles, par exemple ?
J'ai lâché du lest, par exemple, ça va parler à vos auditeurs. J'étais très, très attentive à ce que, pour protéger le principe de présomption d'innocence, les médias n'aient pas, justement, le droit de vraiment dire à tort et à travers des choses tant que les gens n'étaient pas jugés.
Et ça avait soulevé quelques inquiétudes sur la liberté de la presse, évidemment.
Mais oui, mais ce n'était pas la liberté de la presse à laquelle je souhaitais porter atteinte, absolument pas, parce que pour moi, elle est à mettre aussi haut dans la hiérarchie des normes que peut l'être ce principe de présomption du droit pénal. Mais c'était de protéger le secret de la procédure tant que quelqu'un n'a pas été condamné. C'est vraiment un grand principe issu de la Révolution française. Il est présumé être innocent. Une fois qu'il est que la procédure juridictionnelle est terminée, alors il y a un résultat et à ce moment-là, on peut parler. Et or là, il n'y a pas eu moyen parce que tout simplement dans certains États membres, par exemple comme la Suède, qui est un pays très démocratique évidemment, eh bien ça paraîtrait anormal que le juge ne parle pas aux médias à propos d'une affaire en cours.
Parce que alors ça visait les autorités publiques et effectivement on fonctionne différemment d'un pays à l'autre. Hein.
Voilà, et donc là j'ai un peu lâché du lest. En revanche, je les ai amenés sur ma position, sur le refus du renversement de la charge de la preuve.
Alors on va rappeler la charge de la preuve, l'accusation doit démontrer la culpabilité, le doute doit profiter à l'accusé. C'est le principe.
Voilà, c'est le grand principe du droit pénal.
Et le Conseil, à l'époque en tout cas au niveau de la présidence lettonne, et je crois que ça s'est poursuivi, défendait la possibilité, comme la Commission, de renverser la charge de la preuve. On comprend que dans le texte auquel vous avez abouti, ce principe est maintenu.
Non, j'ai voulu que ne soit pas juxtaposé à la fois le principe et le renversement du principe. Parce que je trouvais que ça bafouait le principe et que moi, ma directive, elle porte sur le principe. En revanche, je ne suis pas comme un Cato Blépas aveugle. Je comprends très bien que dans certaines législations, le renversement de la charge de la preuve peut être organisé, par exemple, pour les infractions routières. Si vous commettez une infraction routière, à ce moment-là, si vous avez roulé au-delà de la limite autorisée, c'est à vous d'apporter la preuve que les faits ne sont pas établis. Et ça, je le comprends tout à fait. Donc j'ai réussi à travailler dur, et le Conseil aussi, parce qu'ils ont trouvé que j'étais pas toujours facile, pour que le renversement de la charge de la preuve soit intégré au texte, mais sûrement pas à la même hauteur que l'article qui pose le principe comme un postulat. Et donc on l'a dans un considérant, et il sera mis en œuvre selon les législations nationales, puisque comme toute directive, elle a un pouvoir contraignant et elle doit être transposée en droit national dans chacun des 28 États membres.
Le temps passe vite. Je vais arriver à ma dernière question, Nathalie Griesbeck. Maintenant que cet accord a été donc trouvé en trilogue, on attend donc le texte en plénière au Parlement européen. Est-ce que vous avez déjà une échéance ?
Alors, demain mardi, je serai à Bruxelles. Je le présenterai à nouveau, je présenterai les résultats de mes travaux dans ma commission des libertés, affaires intérieures et justice. Puis il sera voté demain après-midi. J'espère que je vais avoir donc un vote. Je pense qu'il sera favorable, mais j'en sais rien, puisque comme vous le savez, il n'y a pas de majorité toute faite. Hein. Ça donne du sens au travail des parlementaires. Mais j'espère que j'aurai donc non seulement un vote favorable, mais très large, parce que ça m'aidera pour la plénière. Et ensuite, les juristes linguistes, c'est-à-dire ceux qui travaillent à la traduction pour que la portée contraignante de la directive soit équivalente dans les 28 États membres, donc qui travaillent sur les mots, sur le sens des mots, sur les virgules, etc., devraient m'amener à ce que ça passe en plénière, peut-être encore en décembre. Et ça serait très bien.
Donc fin 2015, début 2016. Hein.
Voilà.
Ce vote important au Parlement européen est donc approuvé.
Approvato.
Proposals and amendments.
Les eurodéputés se retrouvent pour des travaux en commission.
Protection des consommateurs, environnement.
Parlement.